Ce que Bernard n'a pas pu le faire tout à l'heure, je voudrais le remercier d'avoir organisé cette journée, puisque finalement, ces journées en France sont pas très rares, enfin, elles sont tout de même pas si fréquentes. Et puis surtout, le remercier d'avoir établi ce cours avec tant de qualité, de précision. Et merci de cette réunion qui montre que 40 ans après, la parole de Foucault est finalement toujours aussi présente. Bien, alors, nous avons quelques intervenants prestigieux, tous. Et je commence par Antoine Garapon. Vous connaissez tous Antoine Garapon, qui est magistrat, mais philosophe, théoricien du droit, qui a écrit beaucoup de livres et avec qui on a pu organiser des séminaires communs auprès du premier président de la Cour de cassation et qui a comme caractéristique d'avoir une vision très internationale, très comparative du droit. Allez, Antoine, à toi.
Merci. Merci beaucoup. Donc, dans les 10 minutes, moi, j'ai eu une lecture un peu en braconnier de l'œuvre de Foucault que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est assez intéressant de voir que ce cours, qui est un des premiers, est un des derniers à être publié. Donc, on connaît nous la suite de son œuvre. Et je le trouve très intéressant. Au premier degré, mais aussi au deuxième degré. C'est-à-dire qu'on voit le philosophe au travail. Et personnellement, je suis, comme ça a été déjà dit ce matin, très intéressé par la leçon du 28 mars 73 et par cette idée de la prison comme forme, cette réflexion sur la forme sociale. Alors, il y a également d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes. Converge, ça a été dit, sur les illégalismes et la gestion des illégalismes qui prennent un sens nouveau dans la mondialisation, si on considère que la mondialisation introduit une véritable rupture qualitative et non pas une extension de ce que nous connaissons. Alors, ce qui est intéressant dans la forme sociale, j'ai une lecture croisée à la fois de l'œuvre de Foucault et l'œuvre de Cassireur qui réfléchit sur les formes symboliques et sur la forme sociale. Et je trouve que le rapprochement entre ces deux lectures est très intéressant. Très intéressant parce que on retrouve ce qui est dit dans la société punitive, le rapport à l'espace, bien sûr, la séquestration, le rapport au temps, cette extraction du temps. Le rapport au mythe politique qui me semble très, très intéressant et en quelque sorte Cassireur pense bien la forme mais il ne peut pas penser le pouvoir et la lecture de Foucault permet de donner de la force et prend peut-être plus de force d'ailleurs avec cette idée de forme politique, de forme symbolique. Mais je ne suis pas philosophe, moi je voudrais émettre une hypothèse. Cette hypothèse qui pourrait paraître paradoxal, c'est que dans la société punitive, on a des instruments qui nous permettent de penser ce qui se passe aujourd'hui, qui est la sortie du punitif. Le risque, c'est de faire une lecture en termes idéologiques de pratiques gouvernementales. Mais il me semble que la force de penser la société comme une forme, précisément, et donc ce qui va annoncer l'idée de gouvernementalité, c'est que la forme comme pouvoir, le pouvoir de la forme, réclame une autre lecture qu'une lecture strictement idéologique en termes de ce qu'il appelle le bavardage idéologique à certains moments de son cours. Alors, il me semble que ce qui reste pour moi de très puissant dans la société punitive, c'est cette réflexion sur la forme, parce qu'elle va nous permettre de comprendre comment aujourd'hui, par plusieurs aspects, il me semble qu'on sort, du modèle punitif, précisément au bénéfice d'une forme qui est pure fonction de contrôle. Cette réflexion sur le fonctionnel finit par absorber le punitif. Il me semble que dans les pratiques de les pratiques pénales aujourd'hui dans toute leur diversité, il s'agit moins d'un contrôle de l'intériorité qu'un contrôle par l'intériorité. C'est un contrôle qui a recruté définitivement le sujet comme étant son propre contrôleur. Et de tous les dispositifs, autre concept de Foucault, tous les dispositifs aujourd'hui dans la régulation mondiale comme dans les pratiques quotidiennes des tribunaux, elles sont moins destinées à produire une normalisation des comportements qu'à produire du consentement. Ce à quoi elles parviennent très bien d'ailleurs. Et donc ce qu'il dit sur l'habitude, par exemple, aujourd'hui, me semble non pas périmé, mais me semble avoir cédé le pas à de nouvelles formes de contrôle. Aujourd'hui, son hypothèse qui cherche à comprendre la forme prison à partir de la forme couvent, on pourrait prolonger cette réflexion en comprenant les formes de contrôle par ce qui se passe par exemple à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui la gouvernementalité permet de penser une certaine démoralisation des technologies de contrôle. Si on s'intéresse on doit le faire, me semble-t-il, à ce qui concerne l'architecture numérique, tout est dit dans le terme architecture numérique, c'est-à-dire que le numérique est avant tout une forme, et une forme extrêmement contraignante en tant que forme et non pas en tant qu'idéologie. Et donc, c'est à travers cette idée de forme, de l'architecture dans laquelle nous habitons et de cette architecture qui nous formate en quelque sorte, qu'on comprend les transformations du contrôle aujourd'hui. On n'est, me semble-t-il, plus à l'heure de la séquestration. On est à l'heure d'un contrôle par la consommation et non plus par la production. Ça aussi, c'est un événement considérable et c'est un déplacement considérable qui nous transforme encore une fois comme les agents de notre propre contrôle. Merci.
Merci Antoine. Alors, monsieur le professeur Pizzo.
Merci beaucoup.
Vous êtes professeur à
l'EHESS. Page 166, page 244. Le magistrat, le juge, prendra par ici. Tard, et à la toute fin. À la fin, c'est l'avant-dernière phrase. L'index de l'ancien ne les connaît pas. Ni le juge, ni le magistrat. Dans ce constat, plus que minuscule, c'est laisser observer la clairvoyance de la toute dernière phrase de Michel Foucault dans son cours sur la société punitive. C'est le discours normalisant, c'est lui des sciences humaines. On va ajouter celui sous lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. La scientifisation, la théorisation, la fructification des dires de Michel Foucault. Autant de discours qui se complaisent dans la mise en ordre de Foucault par toutes sortes de sciences humaines et sociales. Et paradoxalement, c'est le héros de la dénonciation du discours normalisateur, c'est Foucault lui-même qui normalise l'histoire. Et c'est une histoire bien que différente de celle racontée par les historiens. C'est une histoire qu'il raconte tout à fait à la manière du professionnel de l'historiographie. Source fiable, argument convaincant, lien de cause à effet, sont avancés pour raconter un changement profond, radical, de la société ancienne en instaurant un nouveau régime punitif. Mais, et cela est, si je puis dire, typiquement lui, qui n'était jamais là où on le soupçonnait, mais Foucault met du sable dans son propre récit, qui, comme tout discours qui ne veut pas être du pur mal armé, est un argumentaire rationnel. Car dans cette rationalité de la description de l'émergence d'une société punitive nouvelle, rationnelle, moderne, il y a quelque chose qui ne va pas. Le pouvoir bourgeois, capitaliste, législatif, ne tourne pas rond. Comme on dit en allemand, es läuft nicht rund. Il y a des perturbations, des irritations, même des arrêts. 1772 déjà, page 166. On n'est pas content des juges et leurs indulgences. Les magistrats font n'importe quoi. On sait dans l'histoire de l'ancien régime comme aujourd'hui. Mais Foucault termine donc son cours, son manuscrit du 28 février 1973, page 170, avec des bribes remarquables. Il termine avec ce que on ne peut pas saisir à l'aide de quelconque science humaine. Il termine avec ce qu'on ne peut pas lire, pas entendre, pas extraire. C'est dans les hors textes, j'ai entendu que ça se joue. Dans les textes, ça dort, ça se cache, ça ne se dit pas. Finalement, interprétatif, discours, dans les luttes, faire une critique qui fasse partie immédiatement des luttes, faire ainsi une histoire hors texte. Ce qu'il faudrait pour le faire, entre autres, des pièces de procès. Voilà pourquoi le juge, le magistrat, toute cette horde de gens de justice qui justement n'appliquent point une règle à un cas particulier, mais qui fabrique la règle comme le cas dans chaque cas pour pouvoir justement juger. Le droit donc comme réalité, rien d'autre que jugement. Une série infinie de sentences. Série infinie de sentences. Voilà une définition un peu inhabituelle du droit, esquissée en quelques mots à la page 170, en marge, démentant en passant la belle histoire racontée en long et en large entre janvier et mars 1973. Comment donc circonscrire une décision? Qu'est-ce que cela signifie de sentencer, sentencing, je crois que ça se dit pas en français, de décider, de juger? Peut-être ceci. Toute décision est prise à l'aveuglette. Si même un jugement prononcé, la sentence rendue, laisser les juges exsangues, exténués, leurs assesseurs décomposés, le public pontoie et libre les criminels. Liberté et jugement auraient eu comme racine le délire. Composer un jugement avec le même soin qu'un idiot compose un poème, quelle affaire. Tout aura lieu sur fond de nuit. Le peu de poids de ces mots, leur peu de substance, sentence, trop légèrement prononcé par les magistrats, couvert d'une friperie bouffonne et tragique, que le droit en soit arrivé à ce qu'il est, murmure à peine audible de ce qui furent des lires fastueux, acceptés comme éclaboussures du hasard. Le droit, résidu d'un délire à peine audible, n'est pas la raison. Fatigué, lassé, exténué. De plus en plus imprécis, le tribunal doit savoir que cette imprécision, cette presque invisibilité ne sont pas la raison. Sentence, élaborée par les légistes disposant de mots restés encore vifs après la débâcle de la fortune, l'effondrement des citations latines, les légistes gardent des biens, puis la sentence enfermée dans les alinéas d'un code, une forme assez floue quand elle parvient à la cervelle des juges. Enfin prononcée dans un charabia qui la rendait irréelle et terrible, donc si gravement. Le magistrat opère sur fond de nuit, mais précisons, cette nuit, ces ténèbres, il doit les rendre plus épaisses, plus opaques, puisqu'en aucune façon des mots composant la sentence ne peuvent arriver à la cervelle des magistrats autrement qu'arrachés à la célèbre immémoriale nuit. Une sentence est prononcée avec des paroles murmurées ou claironnées, récitées sous la toge, récitées ou grognées au centre de l'écrasant palais de justice, écrasant d'abord toute sainte chapelle. Les magistrats ne se reposeront sur aucun texte. Au latin, français archaïque, parlant des bouches, ils prononcent la sentence d'abord les dents et les langues. C'est ainsi. Le droit, c'est fabuleux. Toute cette masse de textes, remâchée depuis des siècles, a peu d'importance. Foucault, encore, page 170, interprétation à la série hors texte. La fabrique aussi ancienne que moderne du droit se trouve dans les jugements, les décisions, les arrêts, les sentences et les jugements. Autrement dit, là où le droit rencontre la vie des hommes, là où le droit et cette vie composent cette chose étrange, cette communication si formelle, bizarre et imprévisible à la fois, qu'on appelle le cas. Une infinité de cas. Tout ce qui est le cas devient cas. Cas de justice, cas du droit, cas de la vie. Et avec le cas naît la jurisprudence, ou l'inverse. Le droit, c'est le corps éloquent du juge. Le droit, c'est la jurisprudence, les multiples jurisprudences sur la vie et sur le droit. Thomas Bernhard disait, le monde est d'une manière totale et pénétrante un monde juridique. Le monde est une unique jurisprudence monstrueuse. Le monde est une prison. Dans cette œuvre, ont toujours travaillé les juristes avec une fin, rendre le droit visible, prévisible, calculable. Bien que la copie tende par son auteur répétitif à une certaine cohérence, voire une unité de vision, la compilation des arrêts, des cours de France ou d'Allemagne, des bibliothèques, des jurisprudences de chaque cour, de toutes les cours d'une région ou d'un pays, la compilation tout en rassemblant, en mettant côte à côte tous les arrêts, montrait dans sa manière alphabétique, aléatoire, le rangement que l'unité du droit, en ce qui concerne la jurisprudence, était une chimère. La raison absente a servi du juge un terrain de jeu. Le palais de justice, une nuit profonde. Comment raconter cette histoire? Foucault l'a montré en esquissant la vérité des formes juridiques en ce printemps de cette année 1973. Quand il a parlé du droit comme forme de guerre, quand il a prolongé la lutte pour le droit de Rudolf von Gehring, quand il a mis le doigt sur la jurisprudence comme centre de tout droit. 5 ans plus tard, la réflexion par bribes sur ce centre a trouvé, mais nous ne pouvons pas, faute de temps, en parler plus, excuse-moi Bernard, en octobre 1978, les bribes de Foucault sur la question du droit dans les cours de justice trouvaient leur place dans un article paru dans Le Monde et intitulé « Le citron et le lait ». Texte court qui résume, sans la mentionner bien sûr, certainement même pas pensé, l'affaire du citron et du lait résume la difficulté, pas seulement historiographique, mais conceptuelle, mise en exergue dans le cours sur la société punitive. Pendant la cérémonie du thé, on demande lait ou citron. Lait et citron serait dégueulasse. Traduit en termes d'une théorie de la société, cela signifie droit ou ordre. Car l'architecture du droit ne peut pas être en même temps la mécanique de l'ordre, sauf à produire un monstre répressif, law and order. Pourquoi? Car le droit, dans sa manière judiciaire de traiter la vie des hommes, ressemble beaucoup plus à une œuvre d'art de Tinguely qu'à autre chose, un fatras irraisonnable sans borne. L'histoire du droit serait donc, résumons, une histoire de l'anarchie. Une anarchie qui va avec l'autonomie des différentes branches de la société, comme le droit, l'économie, la science, l'art, le sport, etc. Une anarchie dont l'histoire théorique traiterait la partie couvrant la période, disons, de Pierre-Joseph Proudhon jusqu'à Nicolas Blum. Comment de l'ordre naît le désordre, le désastre du quotidien? L'histoire de, disons, Dalloz et Siré, l'histoire de la documentation, de la recension d'un droit donné quotidiennement, l'histoire des dates quotidiennes du droit. Ce serait une histoire au-delà des notabilités universitaires, doctrinales, savantes. Ce serait une histoire du droit positif, prononcée tous les jours, rapportée tous les jours, toutes les semaines, tous les trimestres. Ce serait une histoire de l'anarchie positive. Je vous ai parlé du déguisé, du camouflage du droit qui n'en réalité pas droit mes jugements, une série infinie de sentences. Ces oratoires éternels des juges. Série infinie de sentences. Page 170, pièce de procès. Encore une fois, toute décision est prise à l'aveuglette. Tout aura lieu sur fond de nuit. Le peu de poids de ces mots, leur peu de substance, sentence trop légèrement prononcée par des magistrats, que le droit en soit arrivé à ce qu'il est, le murmure à peine audible, le droit n'est pas la raison, le magistrat opère sur fond de nuit. Vous vous souvenez ? Et maintenant, je peux le dire. Vous avez, j'espère encore une fois, quelques outils dans un sens ludique foucauldien pour comprendre ces phrases dont je vous ai caché l'auteur dans ce petit voyage dans le monde bizarre du droit. Vous n'avez quand même pas cru qu'elles étaient de moi, voire de Foucault, toutes proportions gardées. Ces phrases sont issues des feuilles inédites, jusqu'il y a peu, que Jean Genet avait confiées aux éditions Gallimard au milieu des années 70. Là, sentence, le titre bien choisi par la maison d'édition. La sentence, le jugement, l'arrêt, la décision. Voilà la juridico-fabrication du droit. Et voilà pourquoi le droit avait, a et aura à voir avec beaucoup de choses de la vie et de la normativité, certainement, très certainement rien avec la raison. Page 170, page 166, page 244. Foucault et le poète disent la vérité en bribes.
Merci, Ryder. Je crois qu'on est... publication des trois premiers, des trois premières années de cours, enfin la deuxième est en cours, la publication des trois premières années de cours au Collège de France est effectivement très importante parce qu'elle, enfin pour moi en tout cas, parce qu'elle fait apparaître un Foucault dont on peut discuter, qui là est manifeste sur son rapport, enfin sur son intérêt pour le droit. Et je crois effectivement que dans ces textes, dans Surveiller et punir, il y a une prise, il y a une analyse très précise, il y a une analytique des jugements de justice et de la complexité des jugements, de la construction du jugement juridique. D'ailleurs, il y a plusieurs articulations du jugement pénal, etc. Alors, sur ce point, je vous rejoindrai. Sur l'aspect irrationnel.
Ouais. Allez-y.
Nous aurons à discuter. Mais
la matière à discussion.
Daniele Lorenzini, tout le monde vous connaît maintenant. Vous êtes chercheur avec Frédéric Gros et puis vous êtes éditeur de Foucault. Je vous en prie.
Merci. Merci Bernard pour cette invitation et cette occasion des confrontations. Dans l'esprit de cette journée d'études, j'aimerais donner voix à une réaction spontanée que j'ai eue en lisant la conclusion de la leçon du 7 février 1973, les deux dernières pages, pages 115-117. Il s'agit d'une foudroyante incursion de Foucault dans l'actualité, car comme nous l'explique Bernard dans ses notes, Foucault réagit ici aux propos tenus la veille, les 6 février, par les ministres de la Santé Jean Fayet, adversaire acharné de la libéralisation de l'avortement, contre un manifeste des 330 médecins déclarant pratiquer des avortements. Bon, cette circonstance en tant que telle mérite déjà d'être soulignée, car c'est très rare que dans ses cours au Collège de France, Foucault se donne la liberté non seulement de traiter d'un sujet contemporain, mais d'entrer vraiment dans les vifs d'un débat public en train de se dérouler. Ce n'est pas sur ça, pourtant, que j'aimerais m'arrêter. En effet, cette rapide incursion dans l'actualité vient après deux leçons, celle du 31 janvier et celle du 7 février, très liées et cohérentes entre elles, introduites par cette sorte de tournant méthodologique sur lequel Bernard a justement insisté dans sa citation, à savoir les passages d'une analyse de type archéologique à une analyse de type dynastique ou généalogique, portant, dit Foucault, je le cite, sur les filiations à partir des rapports des pouvoirs et ayant pour but précisément de retrouver quels sont les rapports des pouvoirs qui ont rendu possible l'émergence historique de quelque chose comme la prison. Si, comme les soutient Judith Revel, d'une façon que je trouve très éclairante, l'archéologie met en évidence les discontinuités entre différents systèmes de pensée passés, en rendant visible leur caractère spécifique et en faisant jouer la différence, d'une certaine façon, des passés à passés, la généalogie, en revanche, met en évidence la différence entre un système de pensée qui est le nôtre et ce qui l'a précédé, en faisant donc jouer la différence entre les passés et les présents, notre présent, et en fondant ainsi la possibilité et la légitimité de convoquer notre présent comme objet d'étude, d'analyse et de réflexion historico-philosophique. Ainsi, dans les leçons du 31 janvier et du 7 février, Foucault essaye de répondre à la question suivante. Cette forme présente, actuelle de la prison, d'où vient-elle? Et, comme vous le savez, il commence par souligner l'hétérogénéité essentielle qui existe entre la clôture monastique et l'enfermement punitif pour retrouver au contraire les lieux de naissance de ces derniers, toujours dans un milieu religieux, mais qui n'est pas les couvents. Ce sont plutôt les communautés des dissenters protestants anglo-saxons. En prenant l'exemple des Quakers américains, donc, Foucault explique pourquoi et comment, c'est dans et à travers ces milieux que se sont noués entre eux l'exercice du pouvoir étatique, les exigences de la production capitaliste et les prescriptions de la morale. En deux mots, je schématise beaucoup, Foucault montre la jonction paradoxale qui s'est produite vers la fin du XVIIIe siècle dans la prison de Philadelphie entre, d'un côté, un principe judiciaire, qui est celui d'une peine comme conséquence de l'infraction et protection de la société, et de l'autre, un principe moral d'une peine qui serait processus de pénitence à la suite d'une faute. C'est ce que Foucault appelle l'invasion du pénitentiaire dans les pénales et les juridiques, en se demandant ensuite quel est l'arrière-fond économique, politique et social qui a rendu possible l'émergence de ces modèles nés outre-Atlantique dans les mondes européens, qui a rendu acceptable la généralisation de cette forme prison à la société entière dans les pays européens. Or, cet arrière-fond, dans le cadre de l'Angleterre, a été représenté par une série de groupes de contrôle et de surveillance à caractère religieux, paramilitaire ou économique, qui s'est donné pour but l'encadrement moral des populations afin de diminuer les risques pris par la fortune bourgeoise dans la période de développement du mode de production capitaliste. C'est à travers eux que s'est opérée la jonction du moral et du pénal, en d'autres termes, une moralisation de la pénalité et une étatisation des instruments de cette moralité pénale qui a donné naissance à ce que Foucault appelait l'élément du coercitif, caractérisé par une coercition qui est quotidienne, qui porte sur les manières d'être et cherche à obtenir une certaine correction des individus. En effet, cette coercition à la fois éthique et politique est nécessaire, selon Foucault, je le cite, pour que les corps, les temps, la vie, les hommes soient intégrés sous la forme du travail dans le jeu des forces productives. Bon, cette invasion du pénitentiaire dans les pénales et les juridiques est un événement incroyable qui explique, d'après Foucault, l'impression d'ancienneté de la prison. Je cite Foucault encore. Si la prison paraît si profondément enracinée dans notre culture, c'est précisément qu'elle est née lestée du moral chrétienne qui lui donne une profondeur historique qu'elle n'a pas. C'est ainsi que, selon Foucault, aujourd'hui, la prison semble indéracinable, prise dans une sorte d'évidence. Alors, on retrouve là, me semble-t-il, un trait essentiel de la généalogie, dans le sens de Foucault. que Foucault, dans ses textes plus tardifs, liera explicitement la notion des critiques. Dans What is Enlightenment, en effet, la critique est définie comme une entreprise généalogique dans sa finalité et archéologique dans sa méthode, qui essaie de repérer dans ce qui nous est donné comme universel, nécessaire et obligatoire, la part de ce qui est singulier et contingent et dû à des contraintes arbitraires. Cette critique, dit Foucault, est généalogique parce qu'elle dégage de la contingence qui nous a fait être ce que nous sommes, la possibilité de ne plus être, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou pensons. Et c'est précisément ça que Foucault fait déjà, me semble-t-il, dans la société punitive, grâce à son enquête dynastique ou généalogique, c'est-à-dire contester, démonter, briser la prétendue évidence et naturalité de la forme prison. Mais on pourrait dire, ce qui manque dans ces cours, c'est d'une certaine façon l'autre volet de la critique, c'est-à-dire l'indication concrète, explicite, de la possibilité de se servir de ces démantèlements des évidences, conduits sur un plan historico-philosophique, de s'en servir dans sa propre pratique militante. Eh bien, il me semble que c'est à la lumière de ces considérations qu'il serait intéressant de lire les deux pages que j'évoquais, car Foucault y trace ce qu'il appelle une espèce de symétrie historique entre la dissidence religieuse au XVIIIe siècle, qui précisément s'est proposée de moraliser la société et qui a fini par étatiser la morale, et les mouvements actuels, contemporains, à la prise des paroles de Foucault, les mouvements de la dissidence morale en Europe et aux États-Unis qui luttent pour les droits à l'avortement, à l'homosexualité, à la constitution des groupes sexuels non familiaux, à la drogue, à l'oisivité, etc. C'est-à-dire, tous ceux qui font aujourd'hui, ou mieux en 73, mais je crois que ça vaut encore pour toute une série de luttes actuelles, un travail symétrique et inverse de celui des dissidents du XVIIIe siècle, en luttant pour la déculpabilisation des infractions pénales, bref, en tâchant de défaire, de dénouer les liens entre morale, défense des rapports de pouvoir propres à la société capitaliste et appareil des contrôles assurés par l'État. Et Foucault a précisé qu'il ne s'agit pas du même travail que font les non-conformistes, ceux qui pratiquent la transgression pour rendre un instant, un lieu, pour une personne, la loi irréelle et impuissante. Au contraire, dit Foucault, lutter contre la coercition, c'est-à-dire contre l'élément du coercitif, entrer en dissidence morale en utilisant l'illégalité comme un instrument de bataille, signifie attaquer directement la connexion morale, pouvoir capitaliste, État. Or, je crois qu'on a là un nœud important de ces cours. Foucault nous met sous les yeux, de façon explicite et directe, la valeur politique dont sont chargées ces analyses généalogiques, visant à retracer les processus historiques des constitutions de ces liens entre morale, pouvoir capitaliste et État. Valeur politique car ces analyses pourront être utilisées comme des armes par ceux qui veulent et qui sont en train de lutter. C'est peut-être ça aussi le sérieux de la lutte, d'une certaine façon. Quand Foucault l'affirmera en 1978 dans sa conférence au Japon, la philosophie analytique de la politique, la philosophie doit cesser de se penser comme prophétie, comme pédagogie ou comme législation, et s'est donné plutôt pour tâche d'analyser, d'élucider, de rendre visibles les rapports des pouvoirs, précisément afin, je cite Foucault, d'intensifier les luttes qui se déroulent autour du pouvoir, les stratégies des adversaires à l'intérieur des rapports des pouvoirs, les tactiques utilisées, les foyers des résistances. Les analyses de la société punitive, ou du moins celles des leçons du 31 janvier et du 7 février, rendent visibles plus en particulier quelque chose que Foucault développera d'une façon bien plus approfondie à partir de 78 qu'à Trévent, mais qui se trouve déjà in nuce ici. Je réponds là à un débat qu'on avait eu à Columbia University il y a quelques mois avec Bernard. Elles rendent visible l'imbrication, l'enchevêtrement essentiel de l'éthique et de la politique. Elles rendent visible les analyses de Foucault dans la société punitive, à la fois la valeur éminemment politique de la dissidence morale, donc la nécessité d'agir et s'impliquer dans les champs de la morale pour s'engager dans une résistance politique efficace, et la nécessité de plonger la morale elle-même dans la trame des rapports des pouvoirs, de faire une histoire de la morale comme stratégie, Corentin Durand les rappelait déjà. Car, comme l'affirme Foucault en concluant la leçon du 7 février, la morale n'est pas dans la tête des gens, elle est inscrite dans les rapports des pouvoirs, et c'est seulement la modification des rapports des pouvoirs qui peut amener la modification de la moralité. Voilà pourquoi cette rapide incursion foucauldienne dans l'actualité, rendue possible par un changement des méthodes, ouvre de façon inattendue et surprenante, me semble-t-il, des pistes qui pointent bien au-delà de surveiller et punir, qui pointent directement aux recherches que Foucault mènera dans les années 80. Merci.
Merci Daniel. Je partage avec vous cette idée. Je crois que ce livre est très, très important parce que les aspects de l'importance pour moi de ce livre, c'est la présence de la question morale. Dans votre opposition entre archéologie et généalogie, moi je dirais que chez Foucault, il n'y a de généalogie que de la morale. C'est toujours une généalogie de la morale, d'une forme de moralisation d'un sujet. Alors je pense que, je trouve que ce texte est très impressionnant parce que je m'excuse Étienne de rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, mais je pense que ce texte, entre ce texte et Surveiller et punir, ce texte valorise, manifeste la dimension morale de ces questions qui, à mon avis, est très technologisée dans Surveiller et punir, mais montre en même temps qu'entre le Foucault de 1973 sur la morale et pour lui l'essentiel, l'enjeu est autour de cette question, de la question morale, et le dernier Foucault, il n'y a pas tant de distance que ça. On donne la parole à M. Xifaras. Merci, vous êtes professeur de droit à Sciences Po.
Oui.
La nouvelle école française de droit.
Une.
Le nouveau leader.
Une nouvelle
le nouveau
école.
Leader.
Bien malgré nous, Monsieur le Président.
Paris 14.
Merci beaucoup. Voilà, dans un échange de mails récents, je disais à Bernard que je le trouvais très rusé, parce qu'il avait réussi à nous réunir sous la promesse de ne pas préparer d'intervention et que, évidemment, finalement, tout le monde allait préparer des interventions et devant un texte difficile. Il a plaidé non coupable et pour essayer de me rassurer, il m'a suggéré de parler des vols de bois, qui est un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé, effectivement, et que Foucault cite. Et donc, je dois dire que je t'en suis très reconnaissant, Bernard, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le texte de Foucault, beaucoup de plaisir à relire le texte de Marx et beaucoup de plaisir à me trouver parmi vous ici. Merci, Bernard. Alors voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très puissant, une puissance dont on n'a peut-être pas toujours pris la mesure, dont Foucault lui-même n'a pas pris la mesure dans la société punitive, qui engage la construction et le fonctionnement de la philosophie et de la science sociale en général. Et la question, je crois que c'est un peu celle autour de laquelle tourne notre panel, ou en tout cas certaines des interventions de notre panel, est celle de la place du droit dans les phénomènes politiques et sociaux. Il me semble que depuis ce que Macheret appelait magnifiquement l'invention des rapports sociaux quelque part entre Bonald, Demestre et Saint-Simon, on a pu estimer que le monde de l'homme est fabriqué de faits sociaux, par quoi il faudrait entendre des relations matérielles symboliques dont est tissée la vie réelle, ces relations n'étant pas juridiques. Et le droit arrive après, soit comme un mode de règlement d'éventuels conflits, c'est-à-dire à la marge, comme mécanisme de restauration de l'ordre social, et il se présente sous une forme qui est répressive, il vient sanctionner la transgression de cet ordre social, soit comme idéologie, comme mécanisme de reproduction aussi de cette idéologie. Althusser parlera, on le sait, d'appareil idéologique d'État, quelque chose comme une représentation partielle, biaisée du monde, représentation du monde du point de vue de ceux qu'il domine et qui cherchent à reproduire cette domination. Dans un cas comme dans l'autre, le droit vient après, une fois que l'ordre social est constitué, comme mécanisme soit correcteur, soit dissimulateur, et évidemment pas comme élément constitutif de l'ordre en question. Bon, Althusser, d'ailleurs, le dit très bien, le droit, c'est de la superstructure. La représentation de la place du droit dans la constitution de la société me semble être à la fois le fruit, la relève et la promotion de quelque chose comme un anti-juridisme foncier de la philosophie et des sciences sociales modernes, et ce qui me paraît être un problème, et ce, me semble-t-il, un des aspects passionnants de ce texte de Foucault, c'est qu'il y a quelque chose comme un pas de côté. Ce que Foucault nous donne à voir avec la notion d'illégalisme, c'est combien cette position est aveugle à la productivité des dispositifs juridiques. Ce qui est passionnant, en effet, enfin, ce qui m'a passionné, parce qu'il y a plein de choses passionnantes, c'est que, comme le dit très bien Bernard dans son commentaire, la notion d'illégalisme nous indique que l'établissement d'un régime juridique donné ne se contente pas de constater les transgressions de l'ordre social et de les sanctionner, mais participe complètement à la définition de ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas, joue un rôle constitutif dans la détermination de cet ordre social et un rôle particulièrement créatif dans la production des diverses figures de sa transgression. Autrement dit, le criminel appartient à l'ordre social, il ne lui est pas extérieur, il est pourtant entièrement créé par les divers régimes juridiques qui tracent la frontière entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Alors ça, cette idée, elle me paraît très puissante, elle permet de réintroduire l'analyse des dispositifs juridiques dans les sciences sociales, dans la philosophie, et ça me paraît très important. Et de ce point de vue-là, nous sommes complètement dans la continuité de ce qui me paraît être les intuitions les plus fécondes du texte de Marx sur les vols de bois. Donc du point de vue du contexte de la production du cours, on voit assez bien ce que fait Foucault. Il me semble, il essaye de tourner deux fois de suite le dos à Althusser, une première fois en refusant d'assigner au droit la fonction de superstructure, et une deuxième, c'est un peu ironique, en allant chercher du côté de chez Marx, chercher un Marx qui n'est pas censé être encore un Marx, puisqu'il est tombé du mauvais côté de la coupure épistémologique. Moi, je crois pour ma part que le texte des vols de bois est un grand petit texte qui peut être lu très indépendamment de la question de savoir ce que deviendra Marx après 1844. Et là, je dois dire que je dois manifester une insatisfaction à la lecture du texte de Foucault. Il y a à la fois beaucoup d'admiration et un peu d'insatisfaction. Il me semble que les vols de bois sont tellement un grand petit texte que, et Foucault dans la société punitive, et nous-mêmes, nous continuons à courir derrière et à avoir beaucoup de mal à courir derrière. La question, si elle est de prendre le droit au sérieux et de son rôle de prendre le droit au sérieux dans son rôle constitutif des objets et des valeurs sociales, il me semble que Marx dit des choses dit plus de choses que Foucault, pour le dire brutalement. Alors, quelques mots sur le texte de Marx. Je vous rappelle que c'est le commentaire d'une législation adoptée en 1842 par la Diète de Rhénanie à propos du ramassage de bois mort dans les forêts. Alors, jusque-là, le bois mort était considéré comme appartenant aux communautés paysannes, comme quelque chose comme un droit d'usage coutumier. La nouvelle loi s'inspire du Code civil français, introduit en droit civil rhénan la notion d'une propriété absolue sur le modèle du Code Napoléon, l'article 544, dans lequel le propriétaire de la forêt sera aussi le propriétaire du bois mort, le bois tombé par terre. Et cette législation introduit en outre des dispositions pénales à l'encontre de ceux qui ramasseraient le bois mort. Elle criminalise le ramassage sur un mode assez particulier, puisque l'amende sera perçue directement par le propriétaire. On va le voir, ça va faire hurler Marx, évidemment. Alors, la législation sur les vols de bois fait deux choses. D'une part, elle crée un illégalisme en créant une illégalité, c'est-à-dire elle rend quelque chose illégal et elle crée un espace dans lequel on va pouvoir gérer l'attitude du criminel. Le ramasseur de bois devient un criminel et Oui, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est peut-être ce qui intéresse le plus Marx, c'est qu'elle transforme la conception en vigueur de la propriété. Alors, je ne rentre pas dans le détail des analyses de Marx, mais elles sont marrantes. Il nous indique que jusque-là, c'était les propriétés coutumières, c'était compliqué, c'était indécis, nous dit-il, c'était hybride, public-privé, par quoi il voulait dire que, bien sûr, c'était de la propriété privée d'un monastère ou d'un propriétaire féodal, mais qu'en même temps, il y avait quand même des droits publics, parce qu'il y avait des communautés villageoises qui avaient des droits là-dessus, que, enfin, tout ça était très compliqué, que la clarification opérée par l'adoption de législation moderne à la Code civile française a bien sûr, d'une part, supprimé toutes les dominations personnelles que les rapports féodaux impliquaient, donc c'est la libération de la propriété, mais à côté de ça, a tout supprimé, y compris l'aspect public, l'aspect communautaire, et que là-dedans, il y a un certain nombre d'intérêts, comme les intérêts des communautés paysannes qui ramassaient le bois mort, qui se sont retrouvés, on dirait aujourd'hui « silented », qui se sont retrouvés... Je ne trouve pas le mot, c'est pas grave.
Réduite au silence.
Réduite au silence, merci Antoine. Voilà, alors moi je trouve que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'y passe du temps dans l'analyse de Marx, c'est évidemment le lien entre les deux analyses. C'est parce que le droit de propriété change, parce que se constitue un marché capitaliste du bois mort, et parce que la constitution de ce marché va déposséder les communautés paysannes du droit d'usage coutumier, que la diète va criminaliser le bois mort. Donc l'analyse ici, c'est une analyse qui comprend du droit civil, le droit de propriété, et du droit pénal, la question de la criminalisation, la peine, l'amende, etc. Et tout ça est pensé dans une seule et même structure. Alors ça, c'est très important. Alors, j'ajoute que Marx est juriste, il a fait ses études à l'université de Berlin, il a eu Savigny comme prof, et il voit assez bien, donc il sait qu'on ne peut pas étudier une situation juridique du seul point de vue d'une branche du droit applicable. C'est-à-dire, c'est pas. En fait, il faut l'étudier dans la situation donnée du point de vue de toutes les branches du droit applicable, de tous les régimes juridiques susceptibles d'être applicables, et bien évidemment de la manière dont ces régimes juridiques jouent les uns avec les autres. Là, je vois tous les juristes que je reconnais dans la pièce sont en train de hocher la tête. Bien sûr, si on se mettait à n'étudier que le droit fiscal ou que le droit civil, on ne comprendrait rien. Voilà. Bon. Alors, ce que fait Marx, et c'est ce qui lui permet de saisir l'ensemble du nouveau dispositif, c'est qu'il arrive à faire le lien concret, la manière dont le droit fabrique la création d'un nouveau marché du bois mort d'un côté, l'invention des amendes privées de l'autre. Et donc, quand on regarde les choses de ce point de vue, on comprend très bien pourquoi l'illégalisme vole de bois. C'est pas parce que les propriétaires sont méchants, c'est même pas parce qu'ils sont moraux, ou en tout cas pas seulement. C'est parce qu'ils sont propriétaires d'une nouvelle manière, parce qu'ils sont propriétaires d'une manière capitaliste qu'ils n'étaient pas avant. Et c'est ça qui est intéressant dans les vols de bois. Alors je reviens à Foucault et la société punitive. Je crois que Foucault n'arrive pas à voir avec le même degré de précision le lien entre le système du droit civil compris comme l'institution centrale des rapports capitalistes, propriété-contrat, et la création des illégalismes dans le droit pénal. Alors vous allez me dire, ce n'était pas son problème, et dire que oui, mais Foucault n'a pas parlé de la Corée du Sud, c'est très grave quand on s'intéresse à la Corée du Sud, mais c'est aussi un très mauvais argument philosophique. D'accord, ce n'est pas tout à fait le type d'argument que je voudrais faire. Ce que je voudrais, c'est montrer que Foucault reste pris dans l'idée que le droit, c'est de la répression, c'est de la coercition, et que donc ce qu'on va étudier, bah, c'est le droit pénal, et que ce qu'on va étudier, c'est simplement le droit pénal. Et ensuite, quand on va se demander quelle est l'articulation entre ce rapport répressif, coercitif, avec le capitalisme, par exemple, eh ben, on va avoir une difficulté parce que le travail sur le droit civil n'a pas été fait. Alors, moi, il me semble que quand je relis la société punitive, la thèse centrale qui me paraît proprement géniale, c'est que le pénitentiaire réintroduit la morale au cœur du droit pénal qui se donnait pour objet de purger la peine de la faute pour se contenter de l'indexer sur l'infraction. Et la question que pose ce livre, c'est pourquoi ce retour de la moralisation? Et la réponse que propose ce livre me paraît incroyablement abstraite, pour ne pas dire un peu verbeuse, c'est que le capitalisme comme le système pénal serait l'un et l'autre une prise de pouvoir sur le temps. Ouais. Moi, ça me fait penser à une conclusion d'agrégation. Bonne conclusion de leçon d'agrégation, mais voilà. Alors, pour répondre à cette question, ce qu'il faudrait aller regarder, c'est ce qui se passe pendant ce temps-là, du côté du droit civil. Et ce qui se passe du côté du droit civil, c'est deux choses. La première chose, c'est l'invention de la théorie du patrimoine. La deuxième chose, c'est l'abolition de la contrainte par corps. Alors, permettez-moi, je développe ces deux aspects très rapidement. La théorie du patrimoine, elle est énoncée dans les premières décennies du XIXe siècle par Zachary d'abord et par Aubriéro dans Langue française ensuite, et elle va devenir le cadre de référence et la pierre angulaire de la reconceptualisation du droit des biens et du droit des contrats. Elle consiste à affirmer que chaque individu est titulaire d'un patrimoine qui est l'enveloppe fictive de tous ses biens, l'interface entre cet individu et le monde. C'est aussi à comprendre comme sa capacité à avoir des droits. Le patrimoine, en tant qu'il est la fiction de l'unité de tous les biens de chaque individu, devient évidemment le gage de ses créanciers. Si vous faites des dettes pour acheter une maison, votre créancier va pouvoir se payer sur votre voiture. Ce que ça veut dire, c'est que tous vos biens appartiennent au même ensemble, qui est votre patrimoine, précisément. Et à l'intérieur de ce patrimoine, vos biens sont fongibles. Et c'est ce qui fait précisément que ce patrimoine peut servir de gage, autrement dit, que vous payez vos dettes avec quelque chose qui était dans votre patrimoine, qui n'est pas forcément ce avec quoi vous avez payé, ce pour quoi vous vous êtes endetté. Et par ailleurs, mais ça nous intéresse moins, le patrimoine est ce qui se transmet à la mort de son titulaire, c'est une hérédité. Alors jeune développement, mais c'est absolument essentiel, le patrimoine est la catégorie qui articule personne et bien, ainsi que la possibilité concrète de contracter de manière responsable, en offrant une garantie au créancier. C'est ce qui, pour le droit, rend la personne saisissable. Donc dans la version dominante du patrimoine, je ne vais pas développer, toute personne doit absolument avoir un patrimoine, parce que si une personne n'avait pas de patrimoine, elle ne serait juridiquement insaisissable. Une personne sans patrimoine, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas donner le droit de contracter librement, parce qu'on ne peut plus le saisir s'il ne paye pas ses dettes. Donc, concrètement, le patrimoine est la possibilité de la société civile dans sa version marchande. Si on libère les dominations personnelles, il n'y a plus que les obligations réelles. S'il n'y a plus que les obligations réelles, il faut le patrimoine. C'est ça l'idée. Le deuxième point qui est très important, c'est l'abolition de la contrainte par corps. Et ça, ça se produit petit à petit. Ça commence un peu en 1793, on réessaye, on rate. Et puis on va réessayer, je me souviens plus, 1848. Et finalement, on y arrive en 1867. L'abolition de la contrainte par corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine du droit civil, on ne fait plus de prison pour dette. Donc c'était une peine d'enfermement qui était liée à la violation d'un droit civil, et pour être précis, le fait de ne pas avoir payé ses dettes. Alors l'abolition de la contrainte par corps, c'est un tournant essentiel du droit moderne. Désormais, dans les rapports de propriété de contrat, on ne paye plus de sa personne. On n'est plus gagé sur son corps. L'idée est très simple, le corps fait partie de la personne. La personne est et doit rester libre dans ses rapports civils avec les autres personnes. Elle devient inviolable. Il y a un moment qui consiste à sacraliser de manière absolument étonnante, au début du 19e siècle, le rapport de la personne. Et ça pose un énorme problème. C'est que si la personne est à ce point sacrée, elle devient insaisissable. Et si elle est insaisissable, mais alors, comment rendre compte des dettes? Comment se saisir des méchants qui ne remplissent pas leurs obligations civiles? Et la solution, évidemment, c'est le patrimoine. Donc il y a un rapport direct entre les deux. C'est que le patrimoine va venir se substituer au corps réel, va venir servir de quelque chose comme un corps artificiel, une fiction de corps, qui va se substituer au corps physique. On ne peut plus saisir le corps, mais on peut saisir le corps artificiel, le compte en banque, la totalité des biens. Autrement dit, en mesure que la personne de droit civil devient une personne dématérialisée et qu'elle n'a plus de corps physique, elle dispose désormais de quelque chose comme une prothèse juridique, qui est son corps artificiel, qui est le patrimoine. Alors sur le plan anthropologique, le triomphe de la théorie du patrimoine, c'est un basculement considérable. C'est à ce moment que le droit civil s'émancipe complètement de ce que Nietzsche avait relu par Deleuze, appelé le droit de la marque. Et évidemment, Foucault a sûrement lu ça, c'est dans Capitalisme et Schizophrénie. Donc on ne s'assure plus des individus en maîtrisant leur corps, en les marquant, mais en saisissant leurs biens. Et dès lors, c'est à ce moment-là que la dette qui circule peut devenir vraiment infinie.
Pour ceux qui ont de l'argent.
Alors, ben voilà, pour ceux qui ont de l'argent. Et alors là, ça pose un énorme problème. C'est que dans ce nouveau dispositif, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le problème du patrimoine vide, qui va être le grand débat, qui va quasiment se confondre avec la question de la constitution sociale chez les juristes de la deuxième moitié du 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien dans votre patrimoine? C'est très embêtant, parce que vous avez beau avoir juridiquement un patrimoine, vous n'êtes pas plus saisissable que si vous n'en aviez pas. Et alors ça concerne qui? Ça concerne les vagabonds, les prolétaires, ça concerne tout ce monde-là. Et donc, oui, le patrimoine repose sur une abstraction. C'est que l'idée que tout le monde a quelque chose dans son patrimoine. Et non, cette abstraction n'est pas réelle. Il y a plein de gens qui n'ont rien dans leur patrimoine. Et oui, ça, c'est un énorme problème pour instituer la société civile marchande de type capitaliste, dans lesquelles la personne est sacrée, dans lesquelles le propriété et le contrat sont libres, etc. etc. Et quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est dans l'articulation du droit pénal et du droit civil. Et là, je redeviens très admiratif de Foucault, parce qu'il la voit, la situation. La solution, c'est l'incarcération de masse. C'est-à-dire, tous ces gens-là, on va les mettre en prison. Comme ça, ça va résoudre le problème. Voilà. Donc, l'invention du criminel, c'est pas la guerre civile. Moi, je dois dire que ces passages-là du texte me tombent des mains, j'ai l'impression qu'ils ne me disent rien. C'est pas la prise du pouvoir sur le temps, c'est la solution concrète et efficace au problème posé par l'invention du patrimoine et le fait qu'il y a des gens qui n'ont rien dans leur patrimoine. Et ça, c'est un très grand danger pour la société qui, comme nous le savons, parce que nous lisons Foucault, doit être défendue. Donc, je repasse à l'admiration. Voilà. Je conclue.
Formidable.
Pour conclure, et sous forme de vade-mecum, on pourrait tirer de cette discussion quelques conseils à l'usage des philosophes et des social scientists qui s'intéresseraient aux phénomènes juridiques. 1. Éviter de lire seulement les discours des juristes sur ce qu'ils font, mais lire les dispositifs juridiques eux-mêmes. Ça, c'est ce que fait Marx, que ne fait pas Foucault dans ce texte-là, parce qu'en fait, les juristes ne font pas toujours ce qu'ils font.
Et... Ils ne disent pas.
Voilà, ils ne disent pas toujours ce qu'ils font. Voilà. Ils ne font pas toujours ce qu'ils disent. Voilà. Donc, c'est intéressant d'aller voir les deux. Voilà. 2. Prendre le droit assez au sérieux pour ne pas imaginer que les objets sociaux, comme la forme salaire ou la forme prison, doivent être interprétés en dehors du rôle constitutif qui joue le droit. Il y a des phrases dans le texte de Foucault qui sont très étonnantes. On a l'impression que le contrat, ce n'est pas du droit. Il oppose le contrat à l'analyse juridique. Bon, il y a des formes d'aveuglement là qui, moi, me surprennent un peu. Chercher à saisir tout ce que font les dispositifs juridiques et pas seulement la dimension la plus attendue, qui est la dimension répressive. Là, je rejoins peut-être, je voudrais rebondir sur ce que disait Étienne ce matin. La question, c'est évidemment pas le pouvoir, c'est la loi, ça descend. C'est peut-être pas seulement la question de l'obéissance. Il est possible que le droit fasse beaucoup, beaucoup de choses, qu'il distribue, qu'il fasse plein de choses et pas seulement de la coercition auquel il faudrait s'adapter. Je m'arrête. Toutes mes excuses. C'était long.
Un peu long.
Merci Michael.
Pour dire, alors, président.
Évidemment, il devait arriver quand un philosophe s'occupe de droit et qu'un professeur de droit est par là, il peut arriver que le professeur de droit fasse une leçon de droit au philosophe. Comme je me souviens avec les historiens, il y avait eu un épisode. Peut-être comparable. Mais je crois que. Moi, je voudrais. J'ai vraiment besoin de discuter avec vous, Michael. Je ne crois pas du tout que chez Foucault, la relation au droit soit spécifiquement par le biais pénal, par le biais du pouvoir. Ce qui intéresse ma proposition, c'est que pourquoi Foucault s'intéresse au droit, c'est parce que. Le droit est une manière. Alors, ce serait une position peut-être un peu abstraite, mais je la soutiendrai volontiers. Foucault s'intéresse au droit parce que c'est une manière de régler un litige qui passe par la vérité, et où c'est au nom de la vérité que se fait le règlement, que se fait le partage et l'attribution soit des torts, soit des biens. Ce qui est essentiel chez Foucault. C'est le rôle de la vérité dans le droit. C'est que le droit mobilise un discours de vérité. C'est le problème de la véridiction. Alors,
tu veux ?
Donc ça, je crois, ça. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le. Évidemment, s'il s'intéresse à l'histoire de la prison, la question du droit pénal est intéressante. Maintenant, vous avez fait tout un tour sur le patrimoine. Mais. Est-ce qu'il était nécessaire de le faire ? Qu'est-ce que fait Foucault ? Précisément, il analyse la manière dont on s'est assuré de personne, qu'on avait installé, que le capitalisme installe dans des rapports civils de contrat, le contrat de louage de service, mais qui précisément, parce qu'ils n'ont pas de patrimoine, n'ont pas de garantie. Et c'est précisément pour pouvoir s'assurer d'une relation contractuelle dont les patrons eux-mêmes vont dénoncer la fiction, qu'on va développer toute cette morale capitaliste pour pouvoir s'assurer de cette personne, prise dans un rapport civil de contrat, mais dont on sait qu'on ne peut pas s'en assurer par le droit, précisément. Et donc, l'aspect moral est inscrit dans. Et Foucault montre la généalogie de la morale dans un rapport juridique. Je pense que ce texte est extrêmement intéressant dans la manière dont il fait la relation ou dont on peut faire avec lui une autre manière de faire les relations entre droit et morale. Bien, je m'arrête là. Alors, vous avez, je pense que Étienne va vouloir dire quelque chose. Pas s'il veut, mais n'importe la parole. Nous avons un quart d'heure à 20 minutes de discussion.
Il y a des occasions de retourner à ce que François a dit
personnel, peut-être, ou bien sur l'importance du patrimoine aussi.
Antoine, reprends la parole. Tu as été très bref.
J'ai été très bref parce que je me suis tenu au minutes. Moi, je suis un vrai juriste, donc on me donne des consignes.
Précisément, ça, c'est, ça n'est donc, pas être un vrai juriste,
pardon,
Antoine.
Guy, oui, bah oui, c'est le jeu. Et j'ai senti une réaction spontanée. Non, je te rejoins absolument sur ce que tu dis sur la vérité. Je pense que en tant que juriste et en tant que juge, encore plus, dont j'assume la condition à côté de Reinhard. Je crois que le texte sur la vérité et forme juridique est pour moi un texte absolument central des conférences de Rio dont les perspectives, alors en termes proprement de droit comparé, ou plus exactement de procédure, non seulement pénale, et je te rejoins aussi sur ce point-là, mais aussi civile, est absolument majeure.
Non, mais c'est juste. Ça me vient à l'esprit que ce que Michael a dit sur le vol de quelque chose qui n'appartient dans une certaine mesure plus à personne, ce qui n'est justement pas vrai. C'est une problématique qui, l'année dernière, il y a deux ans, a ressurgi en Allemagne. Un grand débat là-dessus. À qui appartient la poubelle ? Alors, à qui appartiennent les déchets ? Parce qu'il y avait des éboueurs qui ont pris, notamment un éboueur qui a pris un lit d'enfant qui était jeté par un propriétaire, qui était donc dans la rue pour être ramassé par les éboueurs. Et donc, figurez-vous, ce pauvre éboueur qui a pris ce lit abandonné d'enfant pour son propre enfant, était condamné par la justice parce qu'il s'est approprié une chose qui ne lui appartenait pas et qui appartenait à justement qui n'était pas parce que c'était abandonné par l'ancien propriétaire, hein, c'est pas que ça appartenait plus à personne, hein, parce que si on jette quelque chose à la poubelle, ça appartient au service de la poubelle. Hein. Donc je veux juste dire par cela que c'est un problème qui reste encore, on est encore sur le vif, disons, hein, avec ces problématiques.
Je crois que c'est la, l'analyse de Marx, elle avait repris une actualité avec le livre de Carl Pogliani sur la grande transformation, le problème de l'expropriation des enjeux. Le problème des communs, c'est le problème des biens communs, qui effectivement redevient aujourd'hui un grand sujet, puisque c'est dans le monde numérique, le monde de la donnée. Exactement. La donnée n'est valorisée que lorsqu'elle est partagée, et donc lorsqu'elle est communautarisée, communalisée. Donc se repose le problème de la nature de biens communs aujourd'hui. Enfin, c'est toute la théorie de l'écologie aussi.
Bien sûr.
Alors, Michael, vous voulez...
Oui, oui. Pardon, moi je voulais pas dire que Foucault c'était pas bien. Non, mais et surtout ce que je ne voulais pas faire, c'est dire que c'était pas bien du point de vue du professeur de droit. Je sais pas du tout comme professeur du droit. D'ailleurs, j'ai pas parlé de droit d'un point de vue juridique. J'ai parlé du texte sur Évole de Bois qui est au moins aussi philosophique. Enfin, c'était mon débat de philo d'ailleurs. Donc, je parle d'Évole de Bois autrement comme professeur de droit. Donc, c'est pas une question disciplinaire du tout. Je partage avec vous le mépris des historiens qui trouvent que Foucault, c'est pas assez historien. Enfin, si tous les historiens étaient aussi historiens que Foucault, on se porterait mieux. Donc voilà. Non, moi je crois pas ça du tout. Par contre, je note que vous me dites que Foucault s'intéresse au droit parce que c'est une manière de régler un litige qui passe par la vérité. Et vous me redites que le droit, c'est une manière de régler un litige. Et moi, ce que je dis, c'est que le droit, c'est une machine à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une machine à distribuer des pouvoirs, des immunités. Des obligations, des devoirs, des droits, bien sûr, ce que Hoffeld appelle des privilèges. On peut trouver n'importe quelle taxonomie analytique pour essayer de déterminer tout ce que fait le droit, mais il fait beaucoup plus que ça. Il est constitutif. Et donc, voilà, c'est tout ce que je dis. Et je dis donc, nous autres, philosophes et social scientists, prenons la mesure de tout ce que fait le droit. Et ne nous contentons pas d'étudier la question du droit du point de vue de la coercition, du point de vue de la répression, du point de vue du rapport à l'obéissance ou à la désobéissance, parce que ça, oui, bien sûr, évidemment, il y a cette part-là, elle est peut-être structurelle d'ailleurs, je ne nie pas qu'elle soit essentielle et importante, mais le droit fait bien autre chose que ça. Et j'ai cette frustration. Et pardonnez-moi, je finis juste, mais quand vous me dites que, effectivement, ce qui est génial, c'est que Foucault réintroduit l'aspect moral dans le rapport juridique parce que cette question du patrimoine, oui, mais ça, c'est vous et moi qui l'avons dit, c'est pas dans ce texte-là. Dans ce texte-là, il n'y a rien sur le droit civil.
Michael, dans ma proposition sur litige et vérité, le point important, c'est pas le litige.
Oui, mais oui, mais vous savez, bon, voilà, moi, c'est, alors, on entend ce qu'on veut.
Il me semble, mais vous pouvez penser, le paradoxe foucauldien par rapport au droit, c'est les jurys, on considère que Foucault est un théoricien du pouvoir. Quand Foucault s'intéresse au droit, je pense qu'il s'intéresse peu au droit comme sous le rapport du pouvoir. Par contre, il s'intéresse au droit sous le rapport de la vérité, qui n'intéresse pas les juristes. Ou qui intéresse très peu les juristes. Absolument. Je pense que c'est un peu le paradoxe. Et ce qui est, je pense, extrêmement utile pour les juristes dans les travaux de Foucault, c'est de pouvoir aborder la question du droit sous l'angle de la vérité. Alors, ce genre de texte en est un, mais il y a tout un autre aspect qui est d'ailleurs contemporain de ce texte-là et qui a pris aujourd'hui une importance considérable, c'est tout le débat sur l'expertise, dont on comprend pourquoi il est si important chez Foucault.
Moi, je trouve très intéressante la question du rapport entre le droit et la vérité. Je ne sais pas si ça n'intéresse pas les juristes, je me demande même si ça n'obsède pas les juristes, et si le juriste ne pense pas qu'à ça tout le temps, et si la question c'est est-ce que c'est du vrai droit, est-ce que c'est pas du vrai droit, j'ai des dizaines d'exemples qui me viennent à l'esprit, de juges qui tranchent en vérité, etc. Je trouve que, encore une fois, c'est vachement bien Foucault, et c'est vachement bien aussi parce que ça nous permet de penser ça. Donc j'ai aucun problème avec ça. C'est pas ça que je disais. Et est-ce que, voilà, c'est-à-dire, oui, la question de la vérité dans le droit, c'est très important. Merci Foucault de nous avoir éclairé sur ce plan-là. Moi, je parlais d'autre chose, là.
Ce qui est tout à fait nouveau pour les juristes dans son approche de la vérité, c'est qu'il fait une approche externe de la vérité, comme discours de vérité, comme forme de vérité.
Oui, mais c'est pas de ça.
Et c'est pas du tout dans le sens où l'approche en général des juristes.
Oui, mais justement, je trouve, alors, concernant la vérité, la relation entre droit et vérité, et avec l'expertise, justement, les conférences de Rio, le citron et le lait, tous ces textes que j'ai essayé de mettre aussi en lumière avec la société primitive. Justement là, je trouve Foucault est l'un des seuls, peut-être le seul, ce groupe qu'on pourrait appeler post-structuraliste, post-moderne, comme on veut, même si lui n'allait pas d'être appelé comme ça, c'était le seul qui a vraiment, je trouve, vu le droit aussi d'une manière interne. C'est pas justement la vérité externe, c'est ce que justement les non-juristes essaient toujours d'imputer au droit. Le droit n'est pas là pour dévoiler une vérité externe au droit. Le droit ne peut faire qu'une seule chose, c'est-à-dire de produire sa propre vérité dans le procès. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a l'expertise. Une expertise qui est une perturbation, dans une certaine mesure, d'une vérité externe, mais qui est tout de suite contestée par d'autres expertises. Et surtout par l'appréciation des juristes eux-mêmes, c'est-à-dire par le juge, en dernier lieu. Donc, cette production de la vérité à l'intérieur d'un système communicationnel du droit, c'est justement ça ce que Foucault, contrairement à même à Derrida, parlons pas de Lyotard, a justement bien vu. Alors Foucault, c'est celui qui peut dire aux juristes le plus, qui peut justement les élucider là-dessus. Et justement, quand on prend ce que Foucault dit, par exemple, c'est la torture, et c'est plusieurs reprises adressées à la torture, et au changement qu'à partir du 18e siècle, justement, où la torture était abolie. Mais elle était abolie pourquoi ? Elle était abolie parce qu'on ne voulait plus cette vérité venant d'extérieur, c'est-à-dire finalement par Dieu qui parlait à travers les corps de ceux qui étaient torturés. Hein. Et c'est à partir du XVIIIe siècle que justement le droit s'est posé sur ses propres pieds et est devenu autonome. Et ça, c'est quelque chose que Foucault à mon avis, en tous les cas, très bien lu. Alors, un point fort pour Foucault, hein, mon cher. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Bon.
Non, mais on n'est pas là pour mettre... Alors, Étienne, c'est le dernier... en tout cas, avec moi, pour prendre la... un mot. Bon. Bien.
On mange.
On mange.
Merci.